tu t'en vas, tu lèves ton verre et à la vôtre.
Pourquoi t'es sortie si tard?
Même le sourire de celle dont tu regardes le lui
va seulement croiser son regard.
Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il vous arrive, comme à moi, en ouvrant le journal ou en tournant le bouton du poste, d'apprendre que tout va mal. En vérité, tout va mal.
Vœux de Monsieur le Président de la République, première.
Mon gouvernement saura maintenir la dignité de la France pour améliorer les retraites, pour aider les familles, pour... Oh, il faut couper.
Vœux de Monsieur le Président de la République, deuxième.
Il prendra, je vous le promets, les mesures indispensables pour développer le bien-être.
Mais non, je me suis encore trompé. Demande pardon. Il faut que je relise mon texte. Vous me prêtez mes lunettes.
Vœux de Monsieur le Président de la République, troisième.
Du fond du cœur, bonne année, mes amis, bonne année. Et vive la France.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans le deuxième volet de cette histoire des vœux présidentiels de la 5ème République. Toujours avec André, notre prof d'histoire géo, pour survoler la période 1968-1981, de Gaulle, Pompidou, jusqu'à la fin du règne de Giscard. On se replonge dans l'atmosphère de 1968.
Quand il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas.
Cet épouvantable
sont
des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant.
Mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang.
Je tourne les yeux, je vous le fais sur main.
Que sera 1968? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays.
L'agitation de l'université et l'occupation généralisée des usines, le gouvernement étudie d'urgence la manière de régler le conflit. Jeudi soir, le quartier latin allait être une fois encore le théâtre de violents désordres. Malgré les appels à la discipline lancés par la DESMAR, les enragés n'hésiteraient pas à franchir le No Man's Land, séparant les manifestants des forces de l'ordre. Pour la plupart défendus au milieu étudiant, les provocateurs allaient la nuit durant saccager la place et le boulevard Saint-Michel.
J'ai décidé de tout mettre au suffrage de la nation. Un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation.
La violence est la seule chose qui reste. La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leur père et qu'ils ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication pour en fait les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être, comme vous le disiez, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père.
Française, française, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le sujet. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses pour en fait les coincer et leur faire être dans 30 ans, ce vieux bonhomme qui leur paye.
Démarrage en 68 du deuxième volet de cette histoire des vœux présidentiels de la 5ème République avec André. Allez, on l'a fait au dernier épisode, André, mais on remet ça. Bonne année.
Bonne année à tous.
Et à toutes. Toi, en 68, tu fais quoi?
En 68, je suis lycéen. Et les événements de mai 68 arrivent à la fin de l'année. L'explosion, l'enthousiasme, toutes ces choses qu'on connaît par le cinéma, etc. Et effectivement, c'est une période assez extraordinaire où il y a des réunions, on convoque le proviseur, madame le censeur, etc., et le surveillant général dans le gymnase où on leur fait la leçon, etc. Ils viennent, petit doigt à la couture du pantalon, ils ont peur, beaucoup de profs. De vieux profs avaient peur et pensaient que c'était la révolution. On était obligé de les consoler, de les rassurer. Mais non, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la révolution, parce qu'il y avait des profs en larmes. Il y avait aussi des profs dans la lutte. Hein. Il n'y avait pas que des modérés affolés, etc., par le mouvement. Mais il est vrai que ce qui m'épatait, moi, c'est que j'ai vu beaucoup le côté folklore à l'époque de mai 68. J'ai 18 ans et je vois beaucoup le côté folklorique. Et le côté sérieux, il était à côté, dans les usines, où là, il y avait une grève, c'était une zone de raffinerie. Toutes les raffineries étaient en grève, l'essence ne sortait plus. Les piquets de grève des syndicats étaient dans les pompes pour distribuer le carburant aux ambulances, aux pompiers, aux trucs de première nécessité, aux services publics, mais tout était paralysé. Non, c'est vrai que ça a été un mouvement d'une extraordinaire ampleur. Et là, je prenais la mesure de ce qu'était un mouvement social. Hein. En revanche, du côté des lycéens, bon, c'était le folklore. On avait créé un groupe qui s'appelait Spartacus. Ah, je vous dis pas le truc. Et on avait donc décidé la grève dans le lycée. Les portes étaient fermées, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, une délégation des parents d'élèves avec un drapeau tricolore était venue nous abjurer, nous supplier de reprendre le travail et de cesser cette chienlit, ce désordre, etc. Et personnellement, j'étais étonné par les réactions de peur, d'affolement, de terreur qui avait saisi une partie de, bon, des gens modérés, des gens timides, des gens calmes, des conservateurs, etc., qui croyaient réellement que c'était la révolution bolchevique qui éclatait.
Ils se souviennent, au mois de mai, d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité.
Nos revendications au lycée consistaient à demander le réfectoire commun avec les filles, une cour de récréation commune avec les filles. Les filles nous occupaient beaucoup à l'époque, il faut le dire.
En 1966, Charlotte Leslie choque incroyablement avec ce titre qui évoque l'un des principaux problèmes de la jeunesse française de l'époque. Il nous est en effet très difficile aujourd'hui d'imaginer ce qu'était la rigueur morale de cette France d'avant 68. L'hexagone très rigide de la très catholique femme du général de Gaulle, tante Yvonne. On en parle avec André. Mai 68, ça a aussi démarré parce qu'il y avait des étudiants qui voulaient accéder tranquillement au dortoir des filles. Les gens voulaient pas tant faire la révolution, ils voulaient aussi tirer des coups sans forcément faire de gosses. Ils voulaient jouir, ils voulaient profiter.
Oui, mais ça c'est absolument vrai. Il y a eu dans ce mouvement de mai 68 une exigence de liberté, de suppression des contraintes. C'est vrai que c'était encore une société assez rigide, assez sévère. On regardait la longueur des jupes des filles au lycée, le censeur, mais c'était le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Le censeur des études, qui était une vieille fille à moustache, regardait si les filles étaient en tenue correcte. Il fallait des petites chaussettes, etc. Le pantalon était assez mal vu. On avait une blouse grise une semaine, une blouse bleue une autre semaine avec son.
Les filles avaient le droit au pantalon dans certains établissements quand il faisait très très froid, mais il fallait mettre la jupe par-dessus.
Oui, c'était comme ça. Et dans l'ensemble, c'est vrai que les relations entre filles et garçons étaient effectivement beaucoup moins libres qu'aujourd'hui. Bien sûr, les gens étaient hantés par les grossesses indésirées.
Hein. Est-ce qu'on trouvait des préservatifs en vente libre ?
Ah, c'était assez difficile. C'était un truc pharmaceutique, le préservatif. Il fallait venir à la pharmacie demander, donc avec une certaine honte, etc. Et bon, le pharmacien, quand c'était un mineur, refusait de délivrer. Et à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. C'était pas 18 ans, hein, faut pas oublier ça. En 68, la majorité légale, la majorité civique, était à 21 ans. Et donc, vous voyez, ça posait quand même des problèmes. Les relations hommes-femmes n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à cet égard, mai 68 a été le déclenchement d'un changement de comportements sociaux, sociétaux, comme on dirait aujourd'hui. Pas social, mais sociétaux. En particulier dans les classes moyennes et dans la bourgeoisie. Pour ce qui est de la classe ouvrière, ça a été beaucoup plus long, parce que, bon, les contraintes économiques qui continue d'ailleurs de peser hein, sur la classe ouvrière aujourd'hui, était beaucoup plus pesant que les changements de comportement, de mentalité.
Oui, les Français veulent pouvoir choisir. La régulation des naissances, qui permet de choisir le moment où l'on veut avoir ses enfants, a fait son entrée en France par la loi de décembre 1967. Elle permettait l'information et la vente des produits contraceptifs en France. La vente des produits contraceptifs est maintenant autorisée en pharmacie. Celle des pilules est soumise à un certificat médical pour les personnes majeures, un certificat médical et une autorisation d'un des parents pour les mineurs.
C'était pas simple, hein. Je sais que mai 68 a été le tout début de la pilule. La pilule nous venait des États-Unis et a commencé à être prescrite. Mais sur une agglomération de 400 000 habitants, c'était Rouen, où je faisais mes études, il y avait, je parle du début des années 70, hein, il y avait deux médecins qui accordaient la pilule libéralement. C'était deux femmes, l'une dans la banlieue nord, l'autre dans la banlieue sud de Rouen. Je vous parle de 1970, hein, je vous parle pas du Moyen-Âge. Et il y en avait deux. Pour le reste, eh bien, c'était extrêmement difficile pour les femmes. Hein. Les médecins étaient très et contre la pilule en majorité. Hein.
L'heure est désormais venue de passer de la maternité accidentelle à la maternité consciente et responsable. Ainsi parlait Lucien Neuwirth en défendant à l'Assemblée nationale sa proposition de loi sur la régulation des naissances, une loi qui fit à l'époque l'effet d'une bombe et provoqua des débats passionnés.
Nous nous sommes heurtés pour l'application de cette loi à un état d'esprit conservateur, rétrograde, je dirais aussi un manque de clairvoyance, de discernement et peut-être de générosité. On a placé les femmes, les couples, devant l'alternative accouchement-avortement sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. Vous-même, vous avez fait, comme moi-même, de l'auto-information. On a découvert les vérités de la vie au hasard de ce qu'on glanait sous les préaux des écoles ou dans les bureaux. Tout ça n'est pas sérieux. Très prochainement, l'arrêté qui permet enfin l'agrément des centres d'information et de consultation sera signé, surtout que les moyens d'une information très large vont pouvoir être mis en place avec l'aide des associations, quelle que soit leur tendance confessionnelle ou laïque.
Un problème difficile parce que l'avortement ne remplacera jamais la contraception.
Toujours au cœur de cette émission consacrée aux vœux présidentiels de la Ve République, on vous propose, les amis, de faire à nouveau un saut dans le temps. Nous voici le 31 décembre 1969. On a changé de chef de l'État, celui-ci a de beaucoup plus gros sourcils.
Cette soirée du 31 décembre... It's 1969, okay. Chacun de nous s'apprête à fêter joyeusement le nouvel an. Ma première pensée va à tous ceux qui ne pourront pas participer à la joie générale, à ceux que frappe le malheur, un deuil, la maladie, l'extrême vieillesse ou simplement la pauvreté. Ne les oublions pas et que chacun de nous, s'il le peut, fasse quelque chose pour les aider. À eux, à vous, je dis ce soir, avec tout mon cœur d'homme et de Français, bonne année. Que 1970 vous apporte ce que vous souhaitez. Et pour notre peuple, pour tous les peuples, ce bien suprême qu'est la paix.
Georges Pompidou, le 31 décembre 1969. Alors, on voit bien là que Georges Pompidou est un homme qui a des lettres. Hein. Il a écrit une anthologie sur la poésie française. Il y a du verbe. Mais alors, au niveau du contenu, allez, pour être méchant, j'entends là aussi un discours qui encouragerait des comportements de dame patronesse. Soyons bons avec les pauvres et les miséreux. Pensons à leur distribuer un bouton de culotte en sortant de la messe de minuit. Georges Pompidou invite déjà finalement au retrait de l'intervention de l'État et puis à la charité individuelle. Voilà, si vous voyez un pauvre au coin de la rue, surtout, pensez à lui donner un quignon de pain, car nous sommes des hommes et des Français.
Bon, je serais moins méchant que toi. En tout cas, sur ce sujet-là, la compassion est un sentiment extrêmement respectable et la charité chrétienne est sans doute ce qu'il y a de meilleur dans la religion chrétienne. Tout le reste, on peut le jeter aux orties. Mais il est vrai que c'est quelque chose de nouveau. De Gaulle ne faisait jamais appel à cela. Ça ne veut pas dire que la charité n'existait pas organisée, n'existait pas sous De Gaulle. Hein. Il y avait une émission à la radio française qui s'appelait « Les Français donnent aux Français ». Je ne sais pas s'ils donnaient aux étrangers, mais enfin, ils donnaient au moins aux Français. Mais en revanche, De Gaulle, non, c'est autre chose. Hein. C'était à un autre niveau. Là, effectivement, il est obligé de concéder qu'il y a de la misère, de la pauvreté, et que il faut s'en occuper, mais effectivement, il fait appel à l'initiative privée. Cela dit, Pompidou, en tout cas au début de son mandat, a initié une politique avec Chaban-Delmas de nouvelles sociétés, de nouvelles donnes, etc., avec un certain nombre de négociations avec les syndicats. On est encore dans mai 68, en quelque sorte, c'est-à-dire que on donne encore des miettes de la prospérité, de la croissance aux travailleurs. Je pense que la grosse régression sociale, économique, c'est Giscard.
Un événement qu'on rappelle quand même, après les événements de 68, De Gaulle organise un référendum sur une question annexe, mais la vraie question posée aux Français, c'est « Voulez-vous que je reste à la tête de l'État, oui ou non ?» Et là, ce coup-ci, les Français disent « Non ». Et c'est pour ça que Georges Pompidou est devenu le chef de l'État et que De Gaulle est parti.
Oui, d'ailleurs, une partie de la droite fait défection à De Gaulle. Sinon, De Gaulle n'aurait pas été battu. Hein.
Giscard dit « Votez oui pour le général De Gaulle, oui mais... »
En fait, ça voulait dire « Ne votez pas pour De Gaulle hein. ». Et une partie de la droite n'a pas voté pour De Gaulle. Hein. Une partie de la droite giscardienne, Louis-Philippard, orléaniste, hein, on va dire, ou de la droite conservatrice, démocrate chrétienne, atlantiste, n'a pas voté pour De Gaulle. Cette défection, c'est ce qui a coûté la victoire à De Gaulle. En revanche, le peuple est resté fidèle à De Gaulle en 69, en tout cas.
Dis donc, j'ai une question annexe pour toi. En 68, tu passais ton bac.
Oui.
Et
oui.
Tu l'as eu?
Je l'ai eu. Alors, la légende veut que le bac de 68 ait été donné, etc.
Est-ce que t'es vraiment un vrai professeur agrégé d'histoire, en vrai? On va peut-être te faire repasser ton bac.
Il est vrai que le bac s'est passé dans des conditions un peu comme il a été retardé, etc., par les événements. Et il s'est passé dans des conditions différentes. Par exemple, il y a eu beaucoup d'épreuves orales à la place d'épreuves écrites. Cela dit, c'est pas les épreuves écrites qui me faisaient le plus peur. Bon, je l'ai eu de justesse, hein. J'ai dû avoir 11,60 de moyenne.
Oh.
En toute façon, j'ai toujours eu mes examens et mes concours à l'arraché, enfin, de justesse. Et je n'en ai aucune honte particulière. Bon, il vaut mieux avoir, évidemment, une mention très bien qu'une mention passable. Mais peu m'importe, je pense que je l'aurais eu quand même si ça n'avait pas été le bac de cette année-là, mais un peu particulier. D'abord parce que les examens, ensuite après que j'ai passé à l'université, étaient les examens parfaitement normaux et les concours exactement dans des conditions même beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Hein, ça, certainement, hein, c'était une époque où le nombre de postes au concours et le nombre de gens qui se présentaient au concours était tout à fait différent d'aujourd'hui. Hein.
ces dernières heures de l'année 1972, je voudrais jeter un coup d'œil avec vous sur la situation de notre pays. Il vous arrive, comme à moi, en ouvrant le journal ou en tournant le bouton du poste, d'apprendre que tout va mal. En vérité, qui le croit réellement ? Personne ne peut nier que l'expansion soit en France à l'heure actuelle la première d'Europe. Personne ne peut nier que la situation de l'emploi soit au total satisfaisante. Personne ne peut nier que notre commerce extérieur, source de notre enrichissement et soutien solide de notre monnaie, soit plus brillant que jamais. Personne ne peut nier que les mesures en faveur des bas salaires, des personnes âgées, des retraités, des familles, étaient en 1972 particulièrement importantes. Personne ne peut nier, même si tout le monde, je le sais, n'a pas encore le logement qu'il désire, que la France soit à l'heure actuelle le pays au monde qui fait le plus gros effort en faveur du logement. Personne ne peut nier qu'en ouvrant à la circulation avec le roi des Belges récemment l'autoroute Paris-Bruxelles, j'ai inauguré en même temps le 2000e kilomètre de nos autoroutes. Personne ne peut nier qu'au cours de l'année 1972, nous ayons construit chaque jour un CEG ou un CES, je dis un par jour. Personne ne peut nier que la situation internationale de la France soit largement à la mesure de nos dimensions et de nos capacités. Personne ne peut nier que la France joue un rôle essentiel en Europe. Nous avons tracé les voies de l'Union européenne. Il y a, je le sais, la hausse des prix, dont les mères de famille se plaignent à juste titre. Mais il faut savoir, et je voudrais que vous compreniez, qu'en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Italie et même en Allemagne, la hausse des prix est à l'heure actuelle aussi rapide ou plus rapide que chez nous.
Je m'extasierai au passage une fois de plus sur les qualités littéraires de Georges Pompidou, qui fait ici un petit peu homme du peuple, hein. Il tourne le bouton du poste, il lit le journal comme monsieur et madame tout le monde. Et puis cette magnifique technique d'allitération à personne ne peut nier.
Certes, il adopte un ton très familier, très accessible, etc. Mais c'est un homme de la grande bourgeoisie, hein. Certes, il est issu d'un milieu très modeste, pur produit de l'école républicaine, il devient agrégé de lettres, etc. Mais assez vite, il devient fondé de pouvoir de la banque Rothschild. Et c'est un esthète, un amoureux de l'art moderne, etc. Un homme qui fréquente la bonne bourgeoisie orléaniste, enfin disons la bonne bourgeoisie traditionnelle. Hein. On est étonné d'ailleurs que De Gaulle ait pris cet homme comme premier ministre, mais enfin, il a développé de grandes qualités politiques au moment de mai 68. Hein. C'est lui qui a tenu la barque. Hein. Alors que De Gaulle s'était affolé, hein, et est parti à Baden-Baden.
Pleurer dans les jupes de massue.
Oui, tout le monde connaît cette anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est controuvée, mais enfin, alors De Gaulle aurait dit à Massue, alors. Massu, toujours aussi con. Et Massu aurait répondu, toujours gaulliste, mon général. Mais enfin, alors que De Gaulle avait quitté avec famille et bagages la France, Pompidou avait gardé et savait bien que la situation pouvait se redresser. Donc, c'est assez logique quand il est succédé à De Gaulle.
Alors là, on est en 72, au vœu qu'on vient d'entendre, et on sent poindre une nuance d'inquiétude quand même. Ça sent le choc pétrolier qui arrive à grands pas. Hein. Les 30 Glorieuses, c'est bientôt fini.
Oui, il y a des fêlures là, de plus en plus larges sur le plan économique, social et politique aussi. Hein. Ça va être le début de l'union de la gauche. On sent qu'il y a un mécontentement quand même social et politique dans le pays. Malgré tout, ça peinture économique et sociale est pas si fausse que ça, surtout si on se rapporte à la situation d'aujourd'hui. Je pense que dans la mémoire des gens d'origine modeste, hein, classe ouvrière, des gens en France qui ont connu cette période-là, ils sont pas tous morts, hein. C'est pas si vieux que ça, évidemment, pour quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, c'est le paléolithique, mais pour des gens assez âgés, oui, ils ont souvenir d'une époque bien plus heureuse, bien plus favorable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'éditorialistes, de journalistes se complaisent à dire « Oui, la France remâche sa tristesse, remâche son pessimisme. » Mais si les gens comparent aujourd'hui à 1972, on va dire 40 ans en arrière, oui, indubitablement, il y a une dégradation radicale, complète de la situation économique, industrielle, etc., etc. En 72, les indicateurs économiques sont bien, bien plus favorables qu'aujourd'hui.
Si nous avons un F3, c'est-à-dire une salle de séjour, une cuisine et deux chambres pour 3 ou 4 personnes. Mais comme vous l'avez vu aussi, chaque chose étant bien à sa place, parents et enfants peuvent vivre confortablement et agréablement. Et surtout, avec ces très vastes placards, on peut obtenir beaucoup d'ordre, aussi bien du mari que des enfants.
Les enfants des promoteurs sont des enfants prometteurs, car ils ont eu pour nourrice une ordinatrice. Ils sont nés viabilisés sous le signe du désigne et doivent leur aménagement au management. Tout en fredonnant, tout en mâchonnant, une drôle de syntaxe.
Alors bien sûr, les bars, les tours, les ZUP, ZAC et autres grands ensembles sont décriés aujourd'hui, mais ils ont permis à l'époque de loger des millions de gens dans les banlieues, et c'était pour ces gens-là une amélioration considérable de la qualité de leur vie. Ils avaient enfin des chiottes, ils avaient enfin des salles de bain. Ah certes, c'était très sonore, on entendait le voisin manger ses biscottes ou péter un coup. certes, il y avait...
Très rapidement va apparaître le mal des banlieues, hein, la dépression, parce que c'est des... Certes, on a l'eau courante et un peu de confort, on n'habite plus dans un taudis.
Il y a des moments où vraiment la cité devient bruyante, sinon turbulente.
Oui, ici, oui, parce que c'est une ville neuve. Il est venu de cités HLM en moins de 10 ans. Alors évidemment, les jeunes à partir de 14 ans n'ont absolument rien pour s'occuper. On ne peut pas dire qu'ils nous gênent théoriquement parce qu'il y a une place du village, ils sont là, ou alors ils s'en vont, ils vont à Drancy, ils vont là où il y a un cinéma. Il n'y a pas de cinéma ici. On ne peut pas dire qu'ils nous gênent, théoriquement, ce n'est pas vrai. Les enfants ne sont même pas bruyants, il n'y en a pas tellement là au bloc où on est, nous. On est simplement gênés par les odeurs de cuisine. C'est pas que je sois raciste, c'est ce que je vais dire là, non. Mais depuis l'avenue des Pieds Noirs, nous sommes assez mélangés. Alors c'est ça, les odeurs de cuisine de ces Pieds Noirs qui nous gênent.
Madame, c'est dans cet immeuble que ça sent si bon.
Ah non, quand c'est dans l'immeuble, t'attends le chou.
Les nouveaux d'à côté qui arrivent.
Et de quoi ils ont l'air?
Des jeunes.
Mais naturellement, où il y a les jeunes, c'est le désordre qui s'installe.
Oui, c'est pas aussi grave qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le chômage, la misère s'ajoutent, et les trafics et la délinquance s'ajoutent à ça. Mais il y a déjà un problème, oui, parce qu'on a fait des grands ensembles et on n'a rien fait de collectif. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de lieu pour se rencontrer. C'est métro, boulot, dodo, les gens arrivent, dorment, repartent au boulot, etc. Mais, cela dit, il y a une mixité sociale à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, à partir des années 80, les gens vont aller dans les petits pavillons. Est-ce que c'est mieux? C'est le plan social.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, l'opinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la môme du 8e, le HLM. au premier dans mon HLM. Y'a John Cat Dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer de la vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM et l'amour du huitième. Le HLM au deuxième dans mon HLM. Y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, les anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instite, y'en a une c'est ma sœur. Ils vivent comme ça relax, y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé, c'est vous dire s'ils sont cool. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz. Le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier, quand elle sort son coquère. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Au quatrième, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde, il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, y'a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué, c'est pour dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, la montre du huitième, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubar et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au huitième pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième.
Renaud et son HLM tout blême en 1980, avant de revenir vers les vœux présidentiels de 1974. Le roi Giscard trône avec son épouse devant un feu de bois qui crépite.
Adieu donc, 1974, et salut à toi, 1975. Je voudrais que mes vœux soient vraiment des vœux. Les vœux de la France pour les Français et les vœux des Français pour la France. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses vœux.
À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte, à vous et à ceux que vous aimez, bonheur, santé et succès. Et j'ajouterai un souhait. Que ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir le bonheur et la santé n'oublient pas ceux qui sont moins favorisés. Que pour eux aussi, 1976 soit une année meilleure.
Bonne année à tous.
Bonne année à tous.
Formidable, ces vœux de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République en 1974, et de son épouse Anémone. Une fois de plus, hein, la dame patronesse qui distribue des boutons de culotte à la sortie de la messe de minuit refait son apparition. Hein. Bah oui, si les gens sont frappés de malheur, bah c'est qu'ils n'ont pas de chance. Hein, bien sûr, l'État et la société des hommes ne peut rien à ça, c'est le destin. Et puis on peut aussi se pencher ici sur le décorum de ces vœux. Il y a un feu de bois. Le président présente Madame. Eh oui, le président Giscard est un président normal. N'oublions pas qu'à l'époque, Giscard, c'est un président moderne. Et puis, surtout, on appréciera les petits violons, hein, qui font quand même très aristo, très chandelier. Ça sent un peu la marche triomphale vers l'Ancien Régime, tout ça.
Oui, en tout cas, Giscard, il rompt avec une tradition, il rompt avec des pratiques. Il innove considérablement dans la pratique de la politique. C'est avec Giscard que la politique de l'image devient dominante. Giscard fait ça à l'américaine. Il ne vend pas un programme, il ne vend pas un discours politique, il vend une image. Et très important, l'image.
Alors, il a un chien, une femme.
Bien sûr, tout ça fait partie de la panoplie. L'image de la réussite sociale pour les classes moyennes, très important. En quelque sorte, voilà, un homme chic, un homme élégant. À l'époque, c'est pas le vieux gâteux qu'on présente aujourd'hui. C'est un homme relativement jeune, relativement élégant. Il porte bien le costume.
C'est le gendre idéal, hein.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il me semble que dans un débat avec Georges Marchais, il avait dit à Georges Marchais que les gens ne le prendraient pas en stop parce qu'il avait une sale gueule prolétarienne, plébéienne, etc. Alors que Giscard, effectivement, était l'image du gendre idéal, hein, celui qu'on voudrait avoir dans la famille, etc. Donc c'est le début d'une certaine propagande très personnalisée. Aujourd'hui, bon, les gens sont là-dedans et imaginent pas que ça puisse être autrement. On vend une image et tous les candidats aujourd'hui, y compris les candidats de gauche ou en tout cas se prétendant de gauche du Parti Socialiste, donnent là-dedans. Il faut vendre une image, vendre une impression en quelque sorte et non pas un discours politique. Je ne dis pas que les programmes politiques ont complètement été évacués de tout contenu, mais quand même, avant Giscard, c'est une époque où les partis politiques distribuent des tracts où il y a de la lecture, hein, 21, 29, 7, etc., avec un texte recto, un texte verso, et il faut lire des affiches, il y a des affiches. Avec Giscard, ça disparaît et on voit apparaître les slogans sommaires, tout à fait à l'américaine. Hein,
les ancêtres de la force tranquille, de la France forte, du changement c'est maintenant.
C'est ça exactement, il n'y a plus rien qui fait apparaître soit la droite, soit la gauche. Il y a des slogans fabriqués par des publicitaires. Et d'ailleurs, la politique à partir de ce moment-là va devenir tributaire des cabinets de publicitaires et aussi du fric. La conséquence est incalculable. De ce changement, c'est qu'une campagne électorale va devenir très très chère, une campagne présidentielle, mais aussi une campagne de députés. Je me souviens qu'à cette époque-là, lorsque j'étais étudiant dans la banlieue de Rouen, il y avait un type qui a fait ça à l'américaine aussi, un type de droite, qui s'appelait Maurice Bellepomme. Son affiche, c'était son portrait, et à côté c'était marqué Maurice Bellepomme, un Normand pour les Normands. Alors nous, on avait surchargé ça avec une petite affiche et on collait ça, c'était un Normand pour les poires. Hein. Bon, mais cela dit, ça devient sommaire, ça devient imbécile, quoi, creux et sans aucune signification.
Alors, ce qui est marrant dans les vœux de Giscard, là, c'est qu'on sent bien quand même hein, qu'il a dû tirer la langue et tremper moult fois sa plume dans son encrier pour essayer de faire comme De Gaulle. Mais c'est pas tôt, quoi, c'est un gros gâteau, c'est une grosse meringue à la con, c'est creux, c'est scolaire, quoi. Oui. Adieu donc.
C'est forcé, on voit que c'est pas naturel. Oui.
9 sur 20.
Et oui, mais les publicitaires lui ont dit c'est ça qui va. Bon, alors il a pas réussi à effacer sa bouche en cul de poule. Ça fait assez Louis XV. Hein. Bon, le Canard Enchaîné d'ailleurs disait qu'il était descendant de Louis XV par les soubrettes. Hein. Toujours est-il qu'il est marié à une femme qui est descendante d'une famille de noblesse, je sais plus si c'était d'Empire ou de Louis-Philippe, enfin, peu importe. Et c'est un homme de la grande bourgeoisie. Grande bourgeoisie et grande finance. C'est un homme qui a été formé par Pinet après la guerre. Pinet, c'est le... on peut dire, le ressusciteur de la droite traditionnelle. C'est un homme qui a eu des responsabilités sous Pétain et qui, en 52, fonde le CNIP, Conseil National des Indépendants et Paysans. C'est la droite. C'est la droite pure et dure. C'est pour autant, c'est De Gaulle fait appel à cet homme-là pour être ministre des Finances, parce que le début de la carrière de Giscard, c'est le ministère des Finances. Alors bon, il se fait élire dans une circonscription auvergnate archi-acquise, très conservatrice, mais sa carrière, c'est comme ministre des Finances. Et comme ministre des Finances, on peut dire qu'il a favorisé, archi-favorisé la grande finance. C'est Giscard et le créateur de l'emprunt Giscard, qui succède à l'emprunt Pinet. C'est un emprunt qui était destiné aux riches qui allaient casser leur pipe. Pour payer moins de droits de succession, on achetait du Giscard qui était exempt d'une partie des droits de succession. Ça permettait de faire passer l'argent du vieux sans trop payer d'impôts, en quelque sorte. Et c'était garanti sur la valeur de l'or. C'est-à-dire que ça a rapporté aux gens qui ont pris de l'emprunt Giscard des fortunes gigantesques, au détriment, évidemment, du trésor public. Merci, Giscard.
Tu parlais du vieux, hein, le vieux De Gaulle a fait monter Giscard. Giscard a assassiné De Gaulle, hein, très symboliquement. Et Giscard est aussi l'homme qui fera monter un jeune loup de la droite qui s'appelle Jacques Chirac, qui lui aussi d'ailleurs va se marier avec une mademoiselle Chaudron de Courcelles, hein, donc qui a du pognon. Et on le verra par la suite, évidemment, le jeune Chirac tuera Giscard, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe sous la Ve République. C'est Rome, hein, on assassine
oui.
À tour de bras. Les années 70, je me suis laissé dire que syndicalement, toi, c'était des années dures. Oui. En Italie, c'était des années de plomb, il y avait des attentats, il y avait l'extrême droite qui faisait des attentats dans les gares, qui faisait porter le chapeau à l'extrême gauche. Enfin, et en France, c'est comment? Toi, t'es étudiant?
Non, je suis déjà professeur. J'ai eu très tôt le CAPES et on m'a envoyé enseigner dans un lycée technique du Nord, où c'était très politisé, très syndiqué. Songez qu'il y avait une section syndicale dans ce grand lycée technique d'une centaine de personnes au SNES, et même une cellule du Parti communiste. Hein. Et on vendait l'humanité dans les couloirs. On avait un chef d'établissement qui était une véritable terreur, un type réactionnaire, un ancien professeur d'allemand qui était...
Évidemment.
D'une rigueur... Obersturmführer. C'était un type autoritaire, malade de l'autorité et du pouvoir. Mais alors, il y avait du répondant à l'époque. On se battait bien. C'était un type d'ailleurs assez ridicule par certains aspects, parce qu'il voulait tout régenter. Et il a eu plusieurs fois l'honneur du canard enchaîné, dans les colonnes du canard enchaîné. Une fois, il décide de réglementer sévèrement le stationnement sur son parking de lycée. Et c'était un parking où il y avait du goudron rouge et du goudron noir. Et il fait une note de service comminatoire, comme d'habitude, hein, qu'on affichait dans la salle des profs et qu'on lisait avec avidité. Et sur cette note, c'était marqué « Il est absolument interdit de stationner sur les parties roses. » Et c'est un type qui s'était rendu célèbre en voulant, après mai 68, réglementer la coupe de cheveux des élèves. À une époque où tous les jeunes avaient les cheveux longs, il s'était planté devant son lycée et refoulait impitoyablement les élèves qui avaient les cheveux longs. Alors Europe numéro 1 et le canard enchaîné, tout le monde lui était tombé sur le dos en disant « Qu'est-ce que c'est que cet énergumène ?» De raconter une autre, je ne résiste pas. Il y avait une opération porte ouverte où on recevait les parents, etc., pour présenter nos sections techniques et modernes. Il avait tout réglementé, hein, c'était très prussien comme réglementation pour les entrées, les sorties, les classes, les professeurs, les parents, en quelque sorte, devait marcher à la baguette. Et à un moment donné de sa note de service, il avait écrit tel quel: les élèves dont le sexe est libéré à 2 heures, etc., etc. Le canard enchaîné s'en était emparé. Il avait acheté tous les numéros du canard enchaîné pour essayer d'empêcher les gens de rigoler à ses dépens. C'était un crétin fini. On lui avait pourri sa distribution des prix. Il était en effet le seul établissement scolaire à faire encore une distribution des prix avec le sous-préfet, etc., etc. Et on lui avait confisqué le micro, on l'avait ceinturé dans les coulisses et on avait fait un speech pour demander des moyens supplémentaires, etc., etc. Il était vert de rage. Il était vert de rage.
C'était l'époque où l'éducation nationale était effectivement truffée de gauchistes. Ça a beaucoup changé depuis, mais alors les gens croient que c'est toujours comme ça. On va en revenir à Giscard, André, si tu veux bien. On parlait d'image et en 1977, l'image de Giscard s'est un petit peu effritée.
Jusqu'à ces dernières années, le chômage épargnait les pays les plus riches. Depuis 4 ans, tous sont touchés. À quelques signes, on reconnaît que cette crise commence à refluer lentement comme une inondation qui se retire. Elle nous menace en effet. Nous allons subir un nouveau choc du fait de l'augmentation des prix du pétrole confirmée récemment à Caracas. La facture à payer pour la France et pour les Français sera plus lourde qu'en 1973-1974. Cela ne sert à rien de le dissimuler ou de le nier.
Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tout devient gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices.
L'année 1981 sera encore une année difficile.
Et nous voici donc en 1981. Alors là, il n'y a plus de causerie au coin du feu de bois. Voilà, les frimas de l'hiver et la poésie de Mirliton sont au placard. Ça craint, c'est le choc pétrolier, c'est la crise économique, le chômage et tout ça.
Oui, alors j'ai beaucoup admiré l'hypocrisie du propos. Il ne sert à rien de le nier. En fait, non, il n'a pas envie de le nier. Il a au contraire envie de s'en servir. Car à l'époque, le discours sur la crise et le choc pétrolier servent à masquer ce qui se passe réellement. En réalité, avec Giscard, c'est le début d'une réorganisation complète du capital au niveau français, au niveau international. C'est le début de la réaction ultralibérale avec Thatcher et les États-Unis, etc. C'est-à-dire que le capital a décidé de changer les choses, de revenir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein,
pour aller vite, il faut parler des Chicago Boys, hein, qui est cette nouvelle école d'économistes américains néolibéraux qui vont forger les arguments, qui vont forger les armes de persuasion massive des gens, qu'il faut indéfiniment se serrer la ceinture, donner son pognon aux banques, lécher le cul des patrons, se soumettre. Et c'est Thatcher en Angleterre qui sera porteuse de cette politique, Reagan aux États-Unis en 81, et c'est Giscard qui en sera le grand chantre en France. Voilà, c'est le début de « c'est la faute de la crise s'il faut liquider les services publics ».
Précisons quand même qu'en France, on ne se contente pas d'imiter servilement l'exemple anglais ou américain. On participe complètement à cette modification, à cette réaction ultralibérale. En effet, Giscard prend comme ministre des Finances Raymond Barre.
Ah, malheur au canard boiteux.
Mais oui, bien sûr, Raymond Barre, c'est un universitaire, il a fait un très gros ouvrage d'économie, il est professeur à l'université, etc. Et c'est un chantre du libéralisme et même de l'ultralibéralisme.
Et je suis très étonné de lire chaque jour ou d'apprendre chaque jour ce que je vais faire.
Effectivement, c'est l'époque où on casse complètement la sidérurgie. On commence à le démantèlement de l'outil sidérurgique en France. Et il y avait une sidérurgie importante hein, en Lorraine et dans le nord de la France, et également dans les régions de l'Est, du Saint-Étienne, etc. Et on commence à casser. Le capital a décidé de changer de stratégie. On casse tout, Maintenant, la chier, c'est les autres, c'est plus nous, etc. Et...
La véritable menace, chacun le sait, c'est l'arrêt total de tous les robinets du pétrole arabe. Ce pétrole représente près de 40% de la production mondiale et surtout les trois quarts de l'approvisionnement européen et 80%, par exemple, de la consommation française. Un arrêt prolongé des livraisons frapperait donc gravement les économies occidentales.
En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées.
Ne croyez pas d'ailleurs que les pétroliers sont victimes de la crise pétrolière, c'est-à-dire de l'augmentation des prix à la production décidée par l'OPEP, c'est-à-dire l'organisation des pays exportateurs de pétrole. En fait, les grandes compagnies participent à l'opération.
Vous croyez que c'était ces salauds d'Arabes, moi, qui avaient décidé de se faire du pognon sur le...
Ça, c'est la caricature. C'est ce qu'on dit au petit peuple pour qu'il accepte la fatalité. En réalité, non. C'est un véritable complot. Alors, ça se fait évidemment de façon soft, hein, mais ça permet, par exemple, aux compagnies pétrolières de rendre rentable le pétrole de la mer du Nord et un certain nombre de réserves pétrolières qui, au départ, n'étaient pas rentables. Et en plus de ça, par le biais des filiales, des raffineries et des sociétés à l'étranger, les compagnies pétrolières se revendent le pétrole de toute façon à elles-mêmes. Et par tout un jeu de paradis fiscaux qui existe déjà à l'époque, les compagnies pétrolières ne subiront pas gravement l'augmentation des prix du pétrole. Ceux qui vont se subir le prix du pétrole, ce sont les consommateurs, c'est la population. Bon, maintenant, la crise également, elle sert. C'est quoi la crise? C'est cette réorganisation économique. Et Giscard le sait bien, mais on présente déjà la crise comme une sorte de fatalité météorologique, naturelle, comme si ça nous tombait dessus. Ah, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Et on n'est pas les seuls. Les autres aussi ont la crise, etc. Mais tout ceci masque la réaction ultralibérale et permet de la faire passer. À l'époque, lorsqu'on casse la sidérurgie, Barre, il dit, moi, je veux pas payer pour les canards boiteux. C'est une véritable révolution, enfin, une réaction extrêmement violente qu'opère le grand capital à l'époque, puisque, que décide l'État? Le gouvernement, il décide de ne plus financer une partie de ces entreprises qu'il appelle des canards boiteux. Il dit, mais tournez-vous vers la finance extérieure, le capital privé. Et c'est ce qui va se passer. Par exemple, l'EDF, dans ses énormes investissements pour le nucléaire, va se tourner vers la même chose pour la SNCF, c'est-à-dire au lieu que ce soit l'État français qui prête à ces grands services publics ou à ces grandes entreprises, ça va être les capitales extérieures. Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui étranglés par le grand capitalisme mondial, la grande finance internationale? C'est parce que ça a commencé sous Giscard, cette politique de livrer en quelque sorte les entreprises aux bailleurs privés de capitaux. Et c'est une politique désastreuse. Et ça commence sous Giscard. Alors évidemment, le chômage monte. C'est sûr, des pans entiers de l'économie commencent à être dézingués. La CGT fait à cette époque-là, d'ailleurs, une analyse parfaitement réaliste, lucide, de ce qui est en train de se passer. Mais elle est obligée d'y assister de façon impuissante, parce qu'il y a des luttes ouvrières, mais le chômage, le chantage au chômage va devenir une arme décisive pour le patronat et pour le gouvernement, pour faire pression sur les salaires, les conditions de travail, etc. Et c'est le début de ce que nous appelons par paresse intellectuelle la crise, et qui est une régression sociale pour le plus grand profit du capital. Parce que si vous regardez les chiffres, le grand capitalisme, lui, ne souffre pas de la crise. Il va même se livrer à d'énormes spéculations internationales qui vont amener à des catastrophes financières régulières. C'est le début des grandes catastrophes financières. Alors on peut considérer ça comme la fin des 30 glorieuses, etc. Mais c'est le début des 30 calamiteuses et tout. Mais ça, c'est des formules. La réalité, c'est que pour le grand capital, c'est pas calamiteux. C'est même tout profit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous risquons de mourir non pas de manque de pognon, mais d'un une énorme masse de pognon spéculatif qui circule à travers le monde. La pauvreté, pas pour tout le monde. Merci Giscard.
Surtout, le chômage touche en priorité les jeunes et les femmes, la moitié des demandeurs d'emploi. Un choc très dur pour une génération qui aspirait par formation à de meilleurs postes et bute sur la porte claquée du chômage. Le chômage est devenu d'autant plus dramatique que les sociétés industrielles n'ont gardé qu'une seule valeur, le travail. Celui qui perd son emploi a l'impression de perdre à la fois son gagne-pain, sa raison d'être et sa confiance en soi.
Est-ce qu'on sent cette fin de règne de Giscard ? Il y a ce fameux scandale des diamants de Bokassa.
Si Giscard a perdu en 81, il le doit en partie à l'impopularité dans lequel, alors bien sûr, le chômage joue là-dedans. Hein, le chômage va dépasser les 500 000. Ça ne s'était jamais produit depuis la libération. Dépasser, crever le plafond des 500 000, approcher le million. Il y a ça. Il y a aussi l'impopularité du personnage. Bon, c'est un grand chasseur, il a ses amis africains qui lui aménagent des safaris viandards en Afrique, etc. Il a son fameux ami Bokassa, qui est une caricature de tyran africain, qui va être couronné empereur de Centrafrique dans des conditions invraisemblables, avec un trône en or, etc. Oui.
Donc très gênante pour la diplomatie française.
Inspiré des fastes du premier empire français, la pompe centrafricaine se traduit d'abord par la tenue de Bokassa Ier. Aube grège, faite de perles incrustées de diamants, couronne de laurier d'or. Dans un silence total, le souverain va poser lui-même la lourde couronne impériale sur sa tête. Ce sera une longue journée de fastes, de festivités, de chants et de cadeaux, celui par exemple offert par Valéry Giscard d'Estaing, un sabre de l'époque napoléonienne.
Bon, Giscard, quelque part, il est compromis dans cette chose-là. Et puis bon, la démagogie, le populisme, là, on peut en parler, hein. Ça marche mal parce que il invite des éboueurs africains à venir prendre le déjeuner chez lui le matin. Ça n'abuse personne. C'est de la pure démagogie. En réalité, ils savent bien que Giscard, on a le sentiment qu'il représente la grande bourgeoisie et personne d'autre.
Et c'est Mitterrand qui lui donnera le coup de grâce lors de ce fameux débat télévisé. On se rappellera qu'en 74, à la télé, Giscard écrabouille Mitterrand qui maîtrise mal l'outil audiovisuel. Mitterrand tiendra sa revanche lors du débat de 1981.
Vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Donc, ne recherchons pas les citations du passé dans lesquelles vous vous complaisez. Je n'aurais pas la cruauté de vous relire ce que vous disiez quand vous appeliez à la réalisation du programme commun en 1978, ou lorsque vous opposiez la Constitution de 1958, dont vous cherchez à être maintenant le président de la République. Donc ceci, c'est le passé. Nous devons éclairer les Français sur ce que nous allons faire, nos choix pour l'avenir. J'ai proposé un programme pour l'emploi, critiquez-le, mais nous ne jouons pas à ce petit jeu des citations.
Vous ne voulez pas parler du passé? Je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing. 48,3%.
Au revoir.
voilà les amis, c'est en 1981 que s'achève le deuxième volet de cette série sur les vœux présidentiels. Vous aurez la suite l'année prochaine. En attendant, vous pouvez réécouter plein de nos émissions sur le site polemixetlavoixoff.com. Salut et bonne année donc.
Au revoir.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 101.5 FM. Cette émission est une rediffusion.